DW, l'arbre à palabre.
Bienvenue sous l'arbre à palabre. Du 4 au 6 septembre, s'est tenue à Pékin, en Chine, l'édition 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC, sommet au cours duquel ont pris part la quasi-totalité des dirigeants du continent africain ou leurs représentants. Le président chinois Xi Jinping a promis un soutien financier de 50 milliards de dollars à l'Afrique dans les trois prochaines années. La Chine, il faut le rappeler, est déjà le premier partenaire commercial du continent africain avec 167,8 milliards de dollars, environ 151,8 milliards d'euros d'échanges au premier semestre 2024, selon des chiffres avancés par des médias chinois. Pour revenir sur les grandes annonces de ce sommet Chine-Afrique et surtout sur les investissements chinois en Afrique, je reçois trois invités sous l'arbre à palabre. Christian Géraud Nima, éditeur du projet Afrique-Chine et éditeur Afrique du China Global Soft Project. Bonjour Christian Géronima.
Bonjour Eric.
Deuxième invité sous l'arbre à palabre, Ibrahima Niang, ancien chercheur au département de sociologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour Ibrahima Niang.
Bonjour Eric.
Enfin, le troisième invité, Al Kitenge, stratège et analyste économique chez Al Legacy. Bonjour Al Kitenge. Le débat sous l'arbre à palabres est modéré par Eric Topona. Merci de votre fidélité au programme de la DW.
DW.
Première question, Christian Géronima, une promesse de 50 milliards de dollars à l'Afrique dans les trois prochaines années. Que peut attendre l'Afrique des retombées de cette promesse ?
Il faudrait d'abord commencer par clarifier les choses. Il ne s'agit pas de 50 milliards de dollars d'investissement. Il s'agit de 50 milliards de dollars représentent la somme totale de ce que la Chine compte mettre en termes d'engagement financier sur la Chine sur les trois prochaines années. Donc, ils l'ont fait en termes de lignes de crédit, et puis en termes d'assistance financière, et puis en termes d'investissement. En termes d'investissement, l'enveloppe s'élève à 9 milliards. En termes de lignes de crédit, ils l'ont élevé à 11,27 milliards de dollars. Et puis en termes de lignes de crédit qu'elle va donner à des entreprises qui seront généralement des entreprises chinoises pour les aider à faire leurs exportations vers l'Afrique ou bien à aider les échanges entre la Chine et l'Afrique, ça se lève à 30 milliards de dollars. Mmh. Donc, quand on prend l'enveloppe ensemble, évidemment, on a 50 milliards de dollars. Mais quand on la décompose, on se rend compte que c'est important, mais ce n'est pas aussi si significatif que ça, surtout lorsque l'on prend les investissements directs en Afrique, qu'ils ont élevé à 9 milliards de dollars. Quand on prend les investissements miniers que les entreprises chinoises vont faire, par exemple, au Maroc, en Algérie, en RDC, au Zimbabwe, sont des investissements qui vont facilement atteindre les 10 milliards et peut-être pour même passer les 10 milliards au cours des trois prochaines années. Donc, c'est quelque chose de significatif, mais c'est aussi pas aussi significatif que on voudrait peut-être le présenter, on voudrait peut-être le percevoir.
Et ce sera sous forme de prêt, n'est-ce pas?
Non, c'est pas encore déterminé. Par exemple, en termes d'investissement, ce sont des investissements directs. Là où le président chinois a beaucoup plus mis l'accent sur la volonté de voir les entreprises chinoises privées s'engager sur le terrain africain, il y en a déjà de plus en plus. Mais la réalité, c'est que dans le secteur minier, sur le continent africain, les grosses entreprises sont des entreprises privées chinoises, en tout cas dans certains pays. Et donc, ces entreprises-là vont faire des investissements directs qui ne seront pas des prêts. En termes de prêts, il n'y a pas une ligne claire qui détermine s'ils seront des prêts ou pas. On peut supposer qu'en termes des 30 milliards qui seront mis en termes de crédit, ce sont des prêts qui seront accordés à des entreprises chinoises en termes de facilité d'exportation, des crédits d'exportation vers le continent africain. Donc, en termes de prêts bilatérales, il n'y a pas de ligne qui a été prévue dans l'enveloppe que le président chinois a évoquée lors de son discours inaugural.
On me dit que Al Kitenge est à nouveau là. Alors, quelle est votre réaction par rapport à l'annonce faite par le président chinois? Il a promis un soutien financier de 50 milliards de dollars à l'Afrique dans les trois prochaines années. Est-ce que c'est un discours juste pour la consommation de ses hôtes ou comment est-ce que vous l'analysez?
Non, la Chine a défini une ingénierie financière de nouvelle génération qui n'est enseignée dans aucune école occidentale depuis quelques années. En fait, la Chine a disponibilisé des moyens sur le continent en utilisant ses propres entreprises pour être en mesure à la fois de travailler en tant que fournisseur d'infrastructures ou fournisseur d'exploitation minière, Mais en fait, en réalité, la Chine a réussi à se trouver de l'emploi en Afrique et en présentant cela malheureusement comme étant de l'aide ou de l'appui à l'Afrique. C'est vrai que si les pays africains y mettent du leur et qu'ils se donnent un plan pour être en mesure de tirer profit de ces investissements, il est possible que l'Afrique soit en mesure de progresser. Encore une fois, je voudrais ici insister sur le fait que les 50 milliards de dollars auxquels fait référence le président Xi Jinping, c'est de l'investissement chinois sur le continent, dont une grande partie, contrairement à ce que disait mon collègue tout à l'heure, est un emprunt des pays africains parce qu'ils vont rembourser. C'est des facilités financières qui sont données pour être en mesure d'être utilisées par des entreprises chinoises, mais c'est sous format d'un prêt. On l'a vu à RDC dans le secteur minier. Même quand ils vous disent que le remboursement sera fait par l'entreprise chinoise qui va exploiter les mines, mais en réalité, c'est un emprunt. Il faut juste être cosmétique pour être en mesure de le présenter différemment. Et aujourd'hui, je dis, la Chine joue son rôle. C'est à l'Afrique de pouvoir déterminer de quelle manière dans cette danse elle joue. Et c'est notre responsabilité en tant que continent de pouvoir le faire.
Ok, je vais voir ce qu'en pense Ibrahim Niang. La promesse faite par le président chinois de soutenir financièrement l'Afrique à hauteur de 50 milliards de dollars, c'est une facilité financière non négligeable.
En fait, moi, à ce niveau, je veux être très prudent dans la mesure où il y a eu déjà des engagements qui ont été notés durant les forums précédents entre la République populaire de Chine et les pays africains. J'aurais aimé ou j'aurais souhaité, en fait, que les engagements qui ont été faits durant les forums précédents soient monitorés pour nous permettre de voir effectivement est-ce que les engagements qui ont été faits durant le forum de Dakar ont été matérialisés ou pas. Il ne s'agit pas seulement d'afficher ou d'agiter en fait des chiffres pour dire que nous allons donner 50 milliards, 40 milliards ou 60 milliards au continent africain. Il faut, à mon avis, que quand on arrive en fait au seuil du forum, qu'on puisse dire effectivement que l'engagement qui avait été pris durant le forum précédent, consistant à dire que nous allons allouer une enveloppe financière de 50 milliards de dollars au continent africain, qu'on puisse véritablement montrer aux gens que cet engagement-là a été matérialisé. Mais jusqu'ici, je pense qu'il est difficile, voire compliqué, de noter, en fait, la factualité ou la réalité de ces engagements-là. Moi, je voudrais bien que les États africains puissent s'organiser pour que ces engagements-là fasse l'objet d'un monitoring et qu'on cherche en fait véritablement si en fait cette enveloppe financière-là a bénéficié ou va bénéficier au continent africain, qu'on cherche les pays dans lesquels en fait cette enveloppe financière-là est allée.
Oui, mais que gagnent justement ces pays africains qui ont noué des partenariats économiques et financiers avec la Chine? Que gagnent ces pays-là à part les infrastructures qui sont construites?
Oui, surtout, cette enveloppe arrive à un moment où on nous dit que la Chine, dorénavant, s'engage dans des projets petits et beaux. À partir de ce moment, si on me dit qu'il y a 50 milliards de dollars qui sont disponibles et qui vont aller pour les pays africains, je suis un peu dubitatif. Maintenant, que gagnent ces pays-là? Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de débats qui ont été suscités, parmi lesquels, en fait, il y a le débat sur, en fait, l'endettement, sur le fait que des États qui ont engagé à emprunter des sommes colossales pour bâtir des infrastructures, et on s'est rendu compte que ces infrastructures-là ne permettent pas de rembourser en fait la dette empruntée sur le court ou le moyen terme.
Oui, je rappelle qu'un pays comme l'Angola essaie de rembourser la Chine avec son pétrole.
Hein. Oui, ce schéma, ce qu'on appelle le modèle angolais, a toujours existé. Mais je pense que il y a lieu de revoir un peu le schéma du forum.
Christian Gironima, la Chine a toujours vanté le socle de son partenariat économique et financier avec l'Afrique, le déclinant comme étant un partenariat gagnant-gagnant. Or, les pays africains aussi courent le risque de surendettement. Est-ce que vous ne le pensez pas?
Aujourd'hui, les pays africains, en termes de dette publique, la responsabilité de la dette publique des pays africains n'incombe pas à la Chine. C'est vrai que la Chine aujourd'hui représente une grosse portion de la dette bilatérale de plusieurs pays africains, mais lorsque l'on prend la portion de la dette bilatérale dans la dette publique des pays africains, elle ne représente qu'une portion infime. Donc si on prend ça dans l'échelle de ce que la Chine représente aujourd'hui, c'est moins de 6% de la dette publique des pays africains. Donc en termes de surendettement, si on veut pointer du doigt sur la Chine, la question sera: quel est le niveau de responsabilité de la Chine vis-à-vis de ces crédits-là que les pays africains ont? Donc c'est un peu ça le problème que l'on a lorsque l'on parle des financements chinois vers l'Afrique. On tend toujours à prendre un des éléments qui fait sensation plus qu'un des éléments factuels. Donc en termes de surendettement, si on se prend d'un point de vue chinois, on vous dira: écoutez, l'Afrique n'a pas un problème de dette chinoise. Et d'ailleurs, au-delà de ce que moi je peux dire, le FMI dans son rapport sur l'Afrique l'année passée l'a publié, la Banque mondiale pareil, Boston University Database a aussi publié ces rapports-là. Donc aujourd'hui, en termes de surendettement, l'Afrique n'a vraiment pas de crainte à avoir vis-à-vis de la Chine en réalité.
Oui, mais j'ai cité l'exemple de l'Angola qui, pour rembourser ses dettes, est obligée de compter sur son pétrole. Est-ce que ce n'est pas risqué?
Mais justement, c'est l'exemple angolais, l'exemple justement qui vient même, comme on dit en anglais, debunk l'effet de la dette et surtout le narratif sur le piège de la dette, de la diplomatie de la dette, pour la simple bonne raison que l'Angola avait, quand au pic de sa dette, l'Angola avait atteint 45 milliards de dollars de dette. Aujourd'hui, on parle de l'Angola, il lui reste 18 milliards de dollars à rembourser de sa dette vis-à-vis de la Chine. C'est vrai qu'elle le fait à travers ses ressources pétrolières qu'elle vend à la Chine pour pouvoir rembourser cela. Jusque-là, elle expose l'Angola à des crises lorsque le prix du pétrole baisse, évidemment, parce que ça impacte les revenus qu'elle peut générer, les revenus qu'elle va rembourser vis-à-vis de la Chine. C'est même pour ça, d'ailleurs, que ça a pu motiver le choix de l'Angola de quitter l'OPEC pour pouvoir contrôler la production de son pétrole et contrôler à un certain degré le prix qu'elle peut imposer sur son pétrole. En niveau de risque, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un modèle unique, même si c'était un modèle qui est arrivé qui a été initié avec le modèle angolais. Mais sinon, il n'y a pas de gros risque particulier que l'Angola risque un cours à ce niveau-ci.
Ok, avant d'évoluer dans le débat, Alkitenge, parlant de la RDC, le ministère des Ressources Hydrauliques et de l'Énergie a signé un protocole d'accord avec le géant minier chinois China Mobile Denom pour la construction de centrales solaires dans le pays pour un délai de livraison de 2 ans. Que peut gagner, ou bien que va gagner la RDC avec ce partenariat?
Il faut reconnaître que la RDC, dans le secteur minier, a un déficit énergétique important. Les solutions solaires sont parmi les solutions les plus rapides à mettre en application. Encore une fois, là, je suis en train de vous expliquer de manière assez claire que la Chine va faire cet investissement, non pas pour les beaux yeux de la RDC, mais pour alimenter les mines qui ont besoin d'énergie, et en grande partie, les mines sont chinoises. Et donc, il y a un alignement direct entre les investissements, y compris ceux qui sont faits dans le secteur énergétique, et les besoins des entreprises chinoises localement. Entre-temps, quand on aura produit des produits miniers sur le sol congolais, la RDC en tire bénéfice. Entre-temps, le plus important, c'est les avantages fiscaux que la République démocratique du Congo va devoir donner à ce projet pour que cela soit réalisé. Donc, dans mon point de vue, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, un alignement chinois très pointu, connu, et la République démocratique du Congo a la responsabilité de s'assurer de l'ensemble de dons ou d'avantages qu'il confère à ce projet pour être en mesure d'évaluer sur la nécessité de pouvoir le faire dans ces conditions.
Ok. Christian Gironima, lors de ce sommet, la Chine s'est présentée comme un allié objectif de l'Afrique. Le président chinois Xi Jinping a d'ailleurs rappelé le passé commun de la Chine et de l'Afrique. Donc Pékin qui s'oppose en alternative pour le continent africain.
Oui, je crois que c'était le ton, c'était le thème et le ton le plus important sur ce FOCAC. C'est la, c'est l'angle politique et idéologique que le président chinois a donné à ce FOCAC. Et c'est pour ça que je pense que lorsqu'on se focalise beaucoup sur les chiffres donnés, sur les 50 milliards et les autres éléments, on part un peu à côté de l'essentiel de ce FOCAC. Parce que ce FOCAC a vraiment été éminemment politique, parce que le président chinois clairement a voulu inscrire l'Afrique dans une sorte dans une philosophie politique et dans une vision politique du monde qu'elle a. Elle présente l'Afrique comme un partenaire objectif dans ce sens-là, ce qui explique notamment l'élévation de la relation stratégique entre l'Afrique comme entité et la Chine au niveau d'un partenaire pour comme les new era, comme ils l'ont dit en anglais. Mais sinon, ça confirme davantage l'importance politique que l'Afrique a pour la Chine, bien plus que l'importance économique. Et très souvent, on ne se rend pas très vite compte que les relations économiques entre la Chine et l'Afrique sont très marginales comparées à l'engagement économique que la Chine a avec le reste du monde. L'Afrique a beaucoup plus une valeur et une importance politique pour la Chine qu'une importance économique. D'autant plus que tout ce qu'elle prend en Afrique en termes d'engagement économique, elle l'a d'ailleurs beaucoup plus et plus rapidement en Amérique latine, en Asie du Sud-Est. Donc, la dimension politique de ce FOCAC était une dimension sur laquelle il fallait réellement prêter attention et voir sur quoi elle va déboucher dans les prochaines années. Je pense que c'est sur ça qu'il faudra beaucoup plus se focaliser sur l'avenir des relations sino-africaines.
Ok, Ibrahim Anyang, hein, la Chine a décidé d'avoir pour allié l'Afrique pour des intérêts géostratégiques et géopolitiques.
Oui, il est clair que, comme l'a souligné mon co-débatteur, c'est qu'au-delà, en fait, de ces chiffres qui sont agités, c'est que quelque part aussi, le président Xi Jinping, en fait, montre à la face du monde que, voilà, il mobilise, en fait, l'ensemble des pays du continent africain. Il mobilise aussi des régimes, en quelque sorte, qui sont pas bannis, parce qu'on a vu, on dit dans ce forum-là, la présence de certains chefs d'État qui ne sont plus en odeur de sainteté avec les puissances traditionnelles. Cela veut dire, donc, aujourd'hui, qu'au-delà, en fait, de cette dimension économique qui enveloppe un peu ces engagements financiers concernant le forum-là, il y a une volonté politique, voire géostratégique, de montrer à la face du monde que la Chine, en fait, en tant que seconde puissance économique du monde, est résolument prête, en fait, à diriger ce nouvel ordre mondial dans lequel, en fait, il y a toute cette idéologie qui est construite autour d'une humanité, d'une sorte de mankind, donc assez souvent dont parle en fait le président Xi Jinping, pour parler un peu des fruits de la croissance mondiale qui doivent être partagés avec tous les pays du monde.
Ok, Alky Tengue, est-ce que les pays africains peuvent compter sur la Chine, hein, surtout que on évoque de plus en plus dans l'opinion publique, mais dans les opinions publiques de beaucoup de pays africains, la nécessité pour l'Afrique de créer sa propre démocratie.
Je crois que du point de vue culturel, l'Afrique n'a pas à singer ni l'Occident ni la Chine. L'Afrique doit se donner son ADN culturel et être en mesure de le développer. Par contre, il n'y a aucun ADN culturel qui peut être cloisonné et vivre dans un silo. Donc, c'est à nous de définir le logiciel social avec lequel nous désirons interférer avec les autres. Et ce logiciel social est absolument conduit par le logiciel économique. Entre les nations, c'est les intérêts qui comptent, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Et aujourd'hui, la dominance chinoise sur le plan international et la recherche de la Chine en Afrique n'est pas une recherche politique, c'est une recherche de dominance économique du monde. La Chine est à la recherche des terres arables pour être en mesure de cultiver, parce que c'est le prochain kilomètre. La Chine est à la recherche des matières stratégiques qui déterminent la grande transition énergétique et écologique du monde. Et donc la Chine sait exactement, dans ce qu'ils appellent la route de la soie, et elle sait exactement ce qu'elle recherche sur le continent. C'est à nous, au moment où la Chine est en train de rechercher des choses en Afrique de pouvoir déterminer qu'est-ce que nous prenons à la Chine et comment nous le prenons.
Donc, en somme, il faut que les pays africains mettent en place de nouveaux cadres de collaboration entre la Chine, avec la Chine.
Absolument. Absolument. Les dirigeants africains doivent avoir ce qu'on appelle l'intelligence fine stratégique pour être en mesure de pouvoir aller au jeu d'échecs avec un routier comme la Chine qui sait des années en avance où elle veut aller.
Ok. Alors, je vais peut-être également, avant de conclure, laisser réagir les deux autres invités par rapport à la mise en place de nouveaux cadres de collaboration entre la Chine et l'Afrique. Vous l'avez d'ailleurs relevé dans un récent article, Christian Géronima.
Oui. Il y aura certainement la mise en place de nouveaux cadres de collaboration entre la Chine et l'Afrique. Il suffit de lire le discours inaugural du président chinois et le plan d'action qui a été élaboré. Clairement, lorsque la Chine évoque la nécessité de mettre en place des collaborations qui garantissent la stabilité des institutions pour garantir aussi la sécurité des investissements, nous pouvons anticiper la mise en place de nouveaux accords, d'un nouveau cadre de collaboration économique et peut-être même d'investissement. Je ne serais même pas surpris de voir dans les années qui viennent l'émergence d'un cadre collaboratif tel qu'on avait vu avec l'Union européenne et les pays d'Afrique-Pacifique. Comme semblable aux accords de Cotonou. Donc, on peut avoir quelque chose de similaire dans les années à venir dans les relations entre la Chine et l'Afrique. Et donc, c'est pour ça qu'il est important que les pays africains comprennent le rôle qu'ils veulent jouer, quelle est la position qu'ils veulent prendre. Surtout, comme je l'ai dit, de garder en esprit, contrairement à ce que M. Al-Kitting a dit, la valeur de la Chine, l'importance de quelques pays africains en Chine pour la Chine, ne va pas au-delà de l'importance politique, malheureusement, parce qu'en dehors de la RDC à cause de son cobalt, tout le reste des matières premières, le lithium et les autres peuvent être trouvés ailleurs. L'Afrique du Sud peut se mettre en exergue avec son platinum, mais en réalité, la valeur politique de l'Afrique est beaucoup bien plus importante que la Chine, qui représente aujourd'hui quoi ? L'Afrique, c'est 4,2% des relations et de l'engagement chinois dans le reste du monde, donc c'est vraiment intime par rapport à ce qu'elle fait ailleurs. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que l'Afrique garde justement cette vision stratégique pour comprendre où est-ce qu'elle va avec la Chine. Même dans ce nouveau monde que la Chine propose, la question c'est de savoir qu'est-ce que la Chine offre réellement. C'est bien beau les discours de dire qu'on sera égaux, on sera partenaire, mais il faut savoir dans cette hiérarchie, de la vision de la hiérarchie chinoise, qu'est-ce que l'Afrique va jouer dedans? Quel est le rôle que l'Afrique veut jouer dedans? Si on ne trouve pas notre intérêt, je ne pense pas qu'il y a lieu de se jeter corps et âme dedans sans pour autant réfléchir profondément.
Quel est votre point de vue, Ibrahim Anyang?
En fait, moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que les pays africains s'organisent autour des ensembles sous-régionaux. C'est-à-dire que les pays de la CEDEAO devaient s'organiser autour de la CEDEAO pour aller négocier pour la communauté économique un rapport avec le projet de la CEDEAO. Mais cela dénote aujourd'hui une absence de planification stratégique, de vision stratégique, en fait, de l'ensemble de ces pays-là. Ce qu'on a noté durant ce FOCAC-là, c'est que tous les pays y vont dans le cadre d'un forum, soi-disant multilatéral, où la dimension bilatérale prédomine parce que chaque pays vient avec son cahier de charges et cherche en fait à avoir des négociations directes avec la République populaire de Chine dans le sens en fait de leur demander de financer un certain nombre de projets qui leur intéressent. Alors que pour moi, la grande force aurait voulu en fait que ces ensembles sous-régionaux-là, ils vont ensemble s'organiser, voir un peu quelles sont aujourd'hui les urgences au niveau de ces sous-ensembles régionaux-là et travaillent de commun accord avec la Chine pour que en fait, la Chine s'engage en fait, à les accompagner concernant des projets d'infrastructure au niveau de ces ensembles communautaires-là, ce qui n'est pas le cas.
C'est la fin de ce débat sous l'arbre à palabres consacré aux leçons à tirer du dernier forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, qui s'est tenu du 4 au 6 septembre dernier à Pékin, en Chine. Nous sommes revenus également sur les impacts des investissements de la Chine en Afrique avec mes trois invités, Christian Giraud-Nima, éditeur du projet Afrique-Chine, éditeur Afrique du China Global South Project, Ibrahima Nyang, ancien chercheur au département de sociologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et fondateur du think tank Institut des études africaines et asiatiques au Sahel, et Al Kitenge, stratège et analyste économique chez Al Legacy. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté de nous entretenir, hein, d'avoir accepté de participer à cet intéressant débat sur les relations Chine-Afrique.
Merci beaucoup
et à bientôt. À bientôt, au revoir. Le débat sous l'arbre à palabres, c'était avec Eric Topona. À la semaine prochaine pour un nouveau débat avec une nouvelle thématique.